cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 19 juin 2002 à Saint-Jodard.
Quand nous regardons au plan philosophique la diversité de ce que représente la personne humaine, voyons bien, parce que autrement ce serait très faux, la personne, nous l'avons vu, la personne humaine implique ces six aspects. Et le septième, ce serait l'aspect religieux, ayant découvert l'existence de Dieu. De sorte que la personne humaine implique ces sept dimensions. Puisqu'elle implique ces sept dimensions, on peut les organiser diversement. Vous comprenez ? S'il y en a sept, il y en a nécessairement une dominante. Et les autres sont relatives à celle-là. Je peux organiser toute ma vie humaine, au point de vue purement philosophique, autour de la contemplation. Il y a des philosophes, il n'y en a pas beaucoup, il y a des philosophes de l'Antiquité. Je prends quelqu'un comme Platon, qui a organisé toute sa vie autour de la contemplation de Dieu. Je ne sais pas du tout dans le ciel comment Dieu le situera. Mais ça ne me regarde pas en tant que philosophe. Mais en tant que philosophe, je peux dire que Plotin a organisé toute sa vie autour de la contemplation de Dieu. On témoigne même qu'il a eu des extases, qu'il est resté 3 jours dans l'extase. Il vivait seul, dans une très grande saleté, paraît-il, son lieu, une très bonne saleté, c'est-à-dire un grand désordre. Et il n'avait qu'un désir, contempler Dieu. Et ce n'est pas lui qui a écrit, c'est son disciple qui a écrit ses notes dans les conversations qu'il a eues avec lui. Ce n'est pas un écrivain. Non, c'était un contemplatif qui avait des disciples. Et un jour, on l'a vu complètement perdu, comme en Dieu, contemplant Dieu. Et ça a duré un certain temps. On peut dire qu'Aristote a orienté toute sa vie quand même vers Dieu, pas de la même façon, peut-être plus rationnel, plus selon le logos, mais quand même sa vie était orientée vers ça. Il était père de famille, il était époux, mais tout ça était ordonné vers sa contemplation philosophique. D'autres, au contraire, ordonnent toute leur vie sur une prudence politique. Ils sont avant tout et premièrement donnés à leur pays. Comme les anciens, la sagesse d'un maire, du moins, ce que représentait le maire de la commune, le chef des anciens. Alors, ça, c'est la prudence. D'autres ordonnèrent vie vers beaucoup plus, vers le point de vue poétique, le troubadour, le chantre officiel, politique, l'artiste. De nos jours, on peut trouver très bien un type personnel d'une personne artistique. Alors, il y a un caractère spécial. Alors, vous retrouvez toujours, hein, les sept éléments. Mais il y aura une pointe. La personnalité d'un artiste, ou la personne d'un artiste, est autre que la personne du contemplatif, est autre que la personne de l'homme prudent, de sagesse pratique, le sage de la commune, le sage de l'État, un Saint Louis, c'est pas une sagesse artistique, c'est pas une sagesse contemplative, c'est une sagesse politique. C'est une personnalité politique qui atteint une sagesse et qui a tout polarisé. Alors lui, c'est très fort, parce qu'il était chrétien, mais philosophiquement, chez lui, c'était l'aspect prudentiel, au grand sens du mot, qui dominait. Vous voyez, là, on voit le philosophe qui essaie d'étudier parmi les hommes les types particuliers de personnes qu'il y a. L'artiste est un type de personne très particulier. J'ai connu un peu Rouault. Alors, c'était le Breton artiste. Et c'était vraiment un type. Il était chrétien, mais comme type de personne, c'était l'artiste. Rouault, à un moment donné, a brûlé 30 de ses tableaux, parce qu'il n'était plus d'accord. Mais c'est une certaine personnalité de faire ça. Un autre aurait essayé par tous les moyens de les vendre. L'artiste, lui est égal, mais rester fixé sur ce tableau avec qui il n'était plus d'accord, il valait mieux le brûler. Et c'était pas des croûtes, hein. C'était quand même du petit Rouault. Très bien connu ses nièces. Alors, grâce à ses nièces, j'ai pu une fois prendre mon déjeuner, mon repas avec lui. C'était très, très curieux, parce qu'il ne voulait voir personne. Alors, ses nièces avaient dit qu'il y avait un curé qui viendrait, un religieux. Alors, encore pour me faire la leçon. Et on n'entrait pas dans son atelier. C'était sacré. Et bien, arrivé, ils avaient vu Télo. Il est arrivé quand il avait terminé ce qu'il avait à faire. Et il est arrivé en... Oui, poli. entièrement à son tableau qu'il était en train de faire. Il était pris par ça. Les autres personnes lui étaient égales. Simplement, type curé, un curé de plus, ou était chrétien, donc facilement les curés venaient le voir. Alors, les curés, il en avait par-dessus la tête. Parce qu'ils n'y comprennent rien. Alors, quelle est la personnalité type de l'artiste? Et quand on en a connu plusieurs, des vrais artistes, peintres, musiciens, il y en avait au festival à Genève, il y en avait plusieurs types vraiment d'artistes. Il y avait un violoniste qui était vraiment artiste à fond. Musicien et violoniste, d'une façon très, très remarquable. C'est toujours très beau et très intéressant de voir ça. Voir comment, instinctivement, il a fait une synthèse humaine autour de son art. Et c'était bien, très différent, le violon et le peintre. Qu'est-ce qui caractérise l'artiste, la personne de l'artiste? C'est que tout est ordonné en tant qu'artiste, et l'homme est saisi entièrement par cela, sauf s'il est chrétien. Très spécial. Le point de vue chrétien dépasse les finalités multiples et diverses et permet même à ses personnalités d'aller plus loin. Mais l'homme n'est jamais entièrement pris par cela, alors. Oui. Mais sa personnalité humaine, le surnaturel vient au-dessus. Sa personnalité humaine est totalement engagée là. Il est père de famille, peut-être père de famille. Et en tant que père de famille, mais il modifiera sa paternité et son éducation paternelle par son génie d'artiste. Alors tout l'humain passe à travers ça. C'est très spécial de reconnaître là la personne humaine, artiste. Alors, il peut être chrétien, ça ne modifiera pas sa personnalité humaine d'artiste. Ça va la tempérer seulement, mais en l'approfondissant. Presque toujours, c'est comme ça. Il y aura moins de panache, mais un approfondissement. Parce que il aura une finalité distincte. Mais son caractère humain sera entièrement pris par sa personnalité artistique, d'artiste. On considérait ce violoniste comme un des premiers du monde. Un des premiers, oui. C'est difficile de dire le premier, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais un des premiers, c'est-à-dire qu'il était vraiment typé. Et c'était très, très bien de voir comment toute sa personne, tous les caractères de sa personne étaient polarisés par ça. Alors, quel est le caractère propre de l'artiste comme personne? C'est qu'il est entièrement pris par son œuvre. Il est dans son œuvre. Il fait corps avec son œuvre. Son œuvre, c'est lui. C'est son prolongement. S'il est père de famille, il sera père de famille. Et c'est très beau. Il est père de famille. Mais sa paternité à l'égard de ses enfants sera modifiée par son art. L'art arrivera à dépasser ce point de vue de sa paternité ou de sa maternité pour arriver à faire qu'il y a en lui quelque chose qui prend tout le vital, son intelligence, son cœur. Il y a une alliance très curieuse entre l'intelligence et l'amour chez l'artiste, qui n'est pas du tout la même que lorsqu'il s'agit de l'ami. Chez l'ami, c'est l'amour qui domine. Chez l'artiste, c'est ce qu'il porte en lui, son inspiration en train de réaliser quelque chose, son idéal, portant lui, et qui est la mesure de son œuvre. C'est pas l'œuvre qui mesure l'artiste, c'est l'artiste qui mesure l'œuvre, et qui en même temps est saisi par son œuvre. Il y a un lien très particulier entre l'œuvre qu'il a faite, ce qu'il réalise comme œuvre, et ce qu'il porte en lui. Il sera toujours capable de juger son œuvre et de n'être jamais satisfait chez le très grand par son œuvre. Ce qu'il porte en lui est toujours plus que l'œuvre. Toujours plus. Il n'arrive jamais à pouvoir exprimer totalement ce qu'il porte en lui. Et ce qu'il porte en lui s'impose à lui comme ce vers quoi il tend. C'est pour ça qu'il y a très souvent, dans la personnalité de l'artiste, à la fois quelque chose de très net pour juger les œuvres artistiques des autres. Parce que ça ne correspondra pas à ce qu'il porte en lui. C'est toujours très personnel. Chaque artiste est lui-même l'artiste. C'est pour ça que c'est si difficile de mettre des artistes ensemble, pour coopérer ensemble. Parce que chacun, nécessairement comme artiste, donne la note suprême et les autres courent après, forcément. Il y a un absolu très grand chez l'artiste et ce qu'il porte, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas de l'orgueil, ça fait partie de l'artiste comme tel. Et c'est très beau parce que l'art est une analogie de similitude, peut-être la plus parfaite pour la création. Quand Dieu crée l'âme d'un homme, d'une femme, ça doit être pour Dieu ce qu'il y a de plus parfait. De plus grand, de plus beau. est en même temps Père. Il y a les deux. En tant qu'artiste, c'est toujours ce qu'il y a de plus excellent. Et l'artiste cherchera toujours. Il ne s'arrêtera pas à l'œuvre qu'il a faite, parce qu'il sait que l'œuvre qu'il a faite, en tant qu'elle est réalisée, ne réalise pas entièrement ce qu'il porte en lui. Il est lui-même mesure de son œuvre. Son œuvre lui apporte quelque chose qu'il n'a pas, puisque son idée s'est incarnée. Il y a comme une incarnation de l'idée. C'est pour ça qu'il est seul à pouvoir vraiment comprendre son œuvre. Et il le sait. Et il y a donc, au point de vue de la causalité exemplaire, chez l'artiste, il y a toujours un sens très aiguisé de l'absolu. Dans chacune de ses œuvres, il y a quelque chose d'absolu. Il y a quelque chose qui dépasse tout ce qui a été fait. Et qui est unique pour lui. Je crois que c'est peut-être cela qui caractérise le mieux l'artiste. Le comédien est artiste, mais d'une façon toute différente du peintre ou du sculpteur. Il joue, et il joue, c'est-à-dire qu'il incarne un rôle. Et ce rôle, dans la mesure où il est artiste, le saisit entièrement. Il est pris entièrement par ce rôle. Et ce rôle exprime ce qu'il est. L'artiste est dépassé par son œuvre, le comédien est dépassé par son œuvre, par l'œuvre qu'il fait. Il peut être père de famille, et c'est toujours très, très intéressant de voir le changement de l'artiste comme artiste et comme père de famille. Parce que dès qu'on lui parle de ses enfants, il y a immédiatement quelque chose d'autre qui s'éveille en lui. Mais cela fait partie de son type particulier d'artiste. Un artiste qui est père de famille, il y a quelque chose dans son jeu qui passera, parce que toute sa vitalité de père de famille est canalisée, elle est saisie par son œuvre qu'il réalise comme artiste. C'est pour ça que c'est si difficile de préciser la personnalité de l'artiste, parce que ça se modifie forcément. C'est l'homme qui est saisi, qui est pris par ce rôle propre de l'artiste, réaliser son idéal de peintre, de sculpteur, de musicien. Il réalise un idéal qui porte en lui. Alors, il y a toujours quelque chose de dominant, c'est sûr. Il a une détermination très nette, très précise. Saint Thomas appelle les voies déterminées de l'art à la différence de la prudence. L'homme prudent est toujours tout attentif à la finalité et tout est soumis à la finalité. L'artiste, lui, ce n'est pas une fin son œuvre, c'est une certaine fin, finis effectus. Et quand on met les deux ensemble, on voit ce que ça veut dire. C'est une certaine fin, mais en même temps, ça ne l'est jamais totalement, parce que il porte en lui l'idéa, ce qui le détermine dans son exécution d'artiste, dans son travail d'artiste. Il est déterminé par ce qu'il doit faire, par ce qu'il veut faire au-dedans de lui-même. Et il porte en lui ce modèle. De temps en temps, il réalise son modèle en petit. Le sculpteur, très souvent, cela. Il a besoin de le réaliser d'une certaine manière, dans une matière plus souple, pour ensuite le réaliser dans une matière qui résiste et qui exprime mieux la rigueur et la force de son art. C'est très curieux chez l'artiste l'union, l'harmonie qui existe entre ce qu'il porte en lui, son idéa, et la réalisation dans telle matière, le bois, la pierre, le marbre. Et ce passage entre les deux, on dira, ça fait partie de son habileté. Il y aura une possibilité merveilleuse de s'adapter à cette matière et en même temps de la dominer. Cette matière, à certains moments, lui impose des tournants, certains gestes. Je me souviens, c'était un sculpteur breton qui était venu sculpter au couvent une statue de la Sainte Vierge. On l'avait déniché comme un très bon sculpteur animalier. Et puis, il avait accepté, c'était même son rêve, de faire une statue de la Vierge. Et il avait dit, je viendrai vivre chez vous. Je ne peux pas faire ça dans mon atelier. Je dois la faire chez vous. C'était très beau de voir ça. Pour que je sois, mon atelier, ce sera vous qui m'accueillerez. Et je travaillerai au milieu de vous. Il avait pris son petit coin. En récréation, on passait toujours devant lui, on voit comment il avançait. Et un beau jour, je l'ai trouvé tout triste. Il m'a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis arrêté et il m'a conduit devant la statue qu'il a sculptée. Il m'a dit, vous voyez, il y a eu un éclat dans le marbre. Mon coup de marteau a provoqué un éclat. Alors, la taille s'était sur la tête. Est-ce que je vois rattraper ça? Oui, alors vous voyez très bien le point de vue de la matière. La matière, elle est là. Et on ne la domine pas entièrement. Et il m'a dit, pourtant, j'avais choisi mon ma matière, mon marbre. J'avais été sur place pour le prendre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de ces veines cachées qui fassent sauter. Alors j'avais dit, on priera pour vous. Parce qu'il priait, cet homme, il priait en faisant son œuvre. Puis le lendemain, matin, je le retrouve tout gai. Oui, il me dit, ah, j'ai compris. La statue de la Sainte Vierge est très trop raide. Elle doit être plus douce. Et l'éclat m'oblige d'incliner la tête. C'était très beau de voir comment, au fond, comme artiste, il fallait épouser la matière. Ben, premier mouvement de mauvaise humeur, ah, l'éclat. Ben, cette matière qui ne vit pas, qui a ses exigences propres. Le premier mouvement était de mauvaise humeur. Puis le second mouvement, c'était au contraire, ah, la matière, elle m'enseigne. Je ne vois pas m'y opposer, elle m'enseigne. C'est très beau ça. Parce que c'est vrai, l'artiste a une matière, et une matière qu'il ne doit pas dompter, mais une matière qu'il doit amicalement épouser. C'est l'œuvre commune de la matière et de l'artiste. Et il doit l'aimer, il doit la caresser. C'est extraordinaire ça, de voir ce point de vue-là chez le sculpteur. Et quand un sculpteur passe sa main, pas d'abord, mais passe sa main tout doucement sur, pour voir si c'est bien, si la caresse du sculpteur. Au fond, le type de la personne de l'artiste, c'est un sens très grand qu'il doit découvrir entre le caractère propre de telle matière. Un sculpteur de bois n'est pas un sculpteur de pierre. De telle matière et de ce que lui-même pense. Si il veut imposer son idée jusqu'au bout, on dirait que la matière se venge, elle résistera. Alors que si il aime sa matière et que la matière le conduit, alors il y a comme une complicité de la matière et de ce qu'il veut imprimer, donner à cette matière. Et c'est, je crois, le caractère propre de l'artiste, là. Vous serez un artiste dompteur de la matière, et celui-là, il y aura toujours des accros. Et un artiste, au contraire, qui épouse la matière. La résistance de la matière le rend plus artiste. Le fait découvrir ce que par lui-même il n'aurait pas découvert. Mais alors c'est ce langage très curieux pour le sculpteur, pour le peintre, de la matière et de son idée. Il y a un langage, et quand on dit que le corps parle, il y a quelque chose de ça, une analogie de similitude pour l'éducation. Et c'est vrai, le sculpteur, l'éducateur, c'est encore une personne artistique, un grand éducateur, c'est un artiste. parce qu'il a des morceaux de marbre très différents. Devant diverses personnes. Et ça change. Et un éducateur qui ne tient pas compte de la matière devant laquelle il est, l'idéal de l'éducateur à tout prix, ça fera des révoltes quelquefois 10 ans après. La matière se révoltera. Il y a la révolte de la matière. Et la cause matérielle, quand elle se révolte, c'est terrible. La matière, elle est faite pour toujours être épousée par l'idéal, pour que quelque chose se fait. Donc, l'artiste doit avoir une mentalité, une personnalité qui le fait l'ami de la matière et en même temps celui qui la dépasse par son idée. Il y a un sens très profond de l'alliance matière et forme chez l'artiste. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus grand chez lui. Ce sens de l'alliance du corps et de l'âme. Vous voyez, le contemplatif pur a le sens très profond de l'âme, de l'amour. L'artiste a le sens très profond du lien, de l'harmonie, de la proportion, de la matière et de la forme. Et ceci se répercute jusque dans sa manière de regarder son corps, la matière qui lui est donnée. Et c'est vrai, quand on a un corps très capable de faire des choses très grandes, une santé très grande, ou quand on est au contraire maladif, c'est tout à fait autre chose. Et on doit pouvoir savoir ce que notre corps est capable de donner et ce qu'il n'est pas capable de donner, parce qu'alors on va le dompter. Et on pourra le dompter peut-être un petit moment, mais il y aura de ces révoltes. Et quand on parle de la mémoire du corps, c'est ça. C'est que le corps encaisse merveilleusement, mais il encaisse toujours en harmonie avec une forme qu'il met dans sa fin. Il n'y a pas de finalité matérielle. La finalité venant de la matière et exclusivement de la matière est une fausse finalité. Et c'est quelquefois ce qui arrive en fait de l'artiste qui n'aime pas assez la matière sur laquelle il travaille. Il y a un amour de la matière et un respect de la matière qui fait partie de la personne de l'artiste. Et qui est très spécial de ce point de vue-là. Et qui est très belle. Je dis, vous le trouvez alors dans un ordre très différent, mais chez l'éducateur. L'éducateur peut être une personne, c'est un artiste. C'est un artiste au point de vue moral, point de vue intérieur de l'âme, pour éduquer. Et il faut un sens très grand de la finalité et de la matière et le lien qui existe entre les deux. C'est pour ça que la personnalité de l'artiste est très propre à l'homme. C'est ce qui caractérise l'homme. Il a le sens de la matière. Un homme doit avoir le sens de la matière par son corps, par sa sensibilité. Et il faut que le sens de la matière lui donne un amour très particulier de l'esprit, de l'idéa, de l'idée, de ce qui lui permet de connaître ce qu'il peut réaliser et ce qu'il ne peut pas réaliser, ce qui serait disproportionné et ce qui risquerait même d'être quelquefois comme une espèce de mensonge. Il y a dans la personnalité de l'artiste, on voit bien, il y a un équilibre à tenir. Un artiste qui serait purement idéaliste, ça arrive ça, surtout dans notre monde. Alors, l'artiste a un idéal et il n'a aucun sens des réalités matérielles. Ce n'est plus de l'art, c'est de la volture. C'est uniquement des idées. Mais il ne peut rien réaliser. Et il ne réalise rien du tout. Et il peut y avoir ça dans l'éducation, un idéal qu'on ne réalise jamais. Parce que il n'est pas humain. Il est trop organique, il est trop spirituel. Il faut ce sens concret de la matière. Et ce sens concret de la matière maintiendra en lui son réalisme, l'humilité, le respect de l'autre, de ce qui n'est pas lui. Et le respect de l'autre, de ce qui n'est pas lui, l'obligera nécessairement de changer certaines choses au point de vue de son idéal. Et il peut y avoir aussi l'inverse. L'artiste qui a trop le sens de la matière et qui, par le fait même, obéit à la matière. Et son art consiste uniquement à essayer de montrer tout ce que la matière peut par elle-même affirmer. Il y a deux extrêmes. Et quand il s'agit de l'artiste, c'est utile de voir les deux extrêmes. Un artiste idéaliste, un artiste matérialiste. Alors, des deux côtés, c'est l'idéal qui l'emporte. C'est quelque chose d'abstrait qui l'emporte. Mais l'idéal des idées est moins dangereuse que l'idéal de la matière. L'idéal de la matière est très dangereuse parce que on veut que tout soit exprimé par la matière. Et tout ce qui voudrait dépasser, conduire à quelque chose de plus grand, on le supprime. Et c'est très curieux de voir que les climats dans lequel on vit, ce sont des climats ou idéalistes. On a eu le siècle des Lumières, des climats idéalistes, des philosophies idéalistes ou des philosophies matérialistes. Il y en a l'art des deux côtés qui exprime très bien les défauts de l'un et de l'autre. L'artiste dit, proclame ce que tout le monde sent plus ou moins en lui. Et c'est ça la grandeur de l'artiste, c'est qu'il peut exprimer et dire d'une façon très nette ce que tout le monde ressent. Mais il peut le dire d'une façon beaucoup plus nette. La plupart du temps, chez les êtres, ça reste enfoui. Alors, quand on voit les artistes qui ne respectent plus la matière et qui n'ont plus que qu'un idéal, on voit très bien que ces artistes ne sont plus assez proches du réel. Et ils s'idéalisent. Alors ce n'est plus là. Ça devient la pensée, et faussement, puisque c'est une pensée fabricatrice, ce n'est pas la pensée contemplative. C'est la pensée qui travaille et qui modifie ce qui peut être modifié. Et puis vous avez l'inverse, un art tout à fait matérialiste qui est collé à la matière et qui n'émerge pas et qui ne peut pas émerger. C'est toujours important, au point de là, de voir ces deux extrêmes et de voir que le grand artiste, c'est celui qui arrive à faire jouer tout ce que la matière peut donner, et que cette matière reste toujours en relation avec l'idée, la forme, en harmonie avec elle.